Voilà, c'est sur l'invitation de Gaël, qui est ici, qui m'a vu au mois de juillet, mes souvenirs sont bons, qui est venu au foyer, dont je m'occupe, je vais vous raconter que, comment je vais s'occuper des jeunes, je vais mettre ici, comme ça on entend mieux. Et alors, voilà, il est venu au foyer, et il a vu un peu ce que je faisais, mais surtout il a écouté. Il a vu aussi un problème d'un jeune, lequel a dû faire venir l'ambulance. Alors voilà, je suis venu parce que c'est lui qui m'a dit venez une fois. Claudette, mais elle n'est pas ici, Claudette, m'avait dit qu'elle serait là.
Oui, elle viendra demain matin. Oui.
Ah bon, ça va, d'accord. Alors, figurez-vous qu'avant de venir, j'étais à la gare des Guillemets, enfin à Liège, et je rencontre un jeune que j'ai accueilli trois fois. Logé trois fois chez moi. Mais drogué, 26 ans, 27 ans. C'est triste de voir ça. J'aurais tant voulu sauver, mais mentir. Alors avec tout ce qui se passe quand c'est la drogue, des problèmes. Puis il a fallu faire laver le linge deux, trois fois dans lequel il a dormi, avec du détol et tout ça. C'est pas... Alors finalement, je l'ai vu à la gare, je lui ai dit, écoute, je t'ai logé trois fois. Hein. Enfin, c'est pas pour lui faire des remarques, mais pour lui dire que je l'aimais bien. Et puis c'est son frère qui est venu, et il m'a demandé, vous ne savez pas me donner à m'acheter un sandwich pour moi. Je ne savais pas qui c'était, moi, ce garçon-là. Et puis c'était Nicolas qui s'appelait. C'est comme ça, hein, Nicolas. Adrien. C'est Nicolas, je sais pas qui s'appelait. Je me souviens. Alors, je suis entré dans la boutique, là. Et alors, je lui ai offert un sandwich. Il m'a dit, mon frère aussi, qui est ton frère? Mais c'est Miguel. Ah, bon, voilà, ben c'est bien. Alors, Miguel est venu. Alors, je lui ai offert un sandwich à tous les deux. Enfin, un sandwich pour lui, un sandwich pour Nicolas et un sandwich pour Miguel. Et puis alors, je leur ai offert une boisson. Alors, j'étais content de l'avoir fait, parce que c'est dur de rencontrer des jeunes qui sont comme ça. Bien sûr, c'est dur, parce qu'ils sont jeunes, 25 ans. Et Nicolas revenait de trampoline, c'est-à-dire d'un home. Bonsoir des drogués. Je crois que c'est près de la frontière française. Je crois. Et alors, il vient et il tombe à la gare avec son frère. Ben, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je ne sais pas. Enfin, c'est pas facile. Alors voilà, je recommence comment le début. Moi, j'étais jeune vicaire. Vicaire, vous savez ce que c'est qu'un prêtre qui est de un curé. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de vicaires. Enfin, bon, voilà, j'étais jeune prêtre. Bon. Et alors, dans une église près de la gare. Si vous passez par Liège, vous voyez une église. Ben, c'est là que j'étais jeune prêtre. Et alors, on a recommencé les changements des messes, etc. On ne comprenait pas très bien. Enfin, bon, alors j'avais trouvé mon évêque pour dire, écoutez, moi, je voudrais bien aller dans un pays en voie de développement. Il m'a dit, non, tâchez de rester. Alors, j'ai vu des jeunes qui étaient assis sur le banc devant l'église, mais ce n'étaient pas des enfants de cœur. Hein, c'était des gars avec tatouages et des vestes de cuir et des gros mots. Alors, j'ai été les trouver, il faisait mauvais, il pleuvait et il faisait froid. Alors, j'ai été les trouver et je leur ai dit, bah, écoutez, si vous voulez... vous mangez vos frites ou quoi, et qu'il fait froid, ben, je vous en fais une tasse de café à la maison. Alors, ils ont hésité, et puis ils sont venus. Et puis, je me doutais bien, j'ai entendu les problèmes qu'ils avaient chez eux. Donc, ça date de 68, ça. 68, bonsoir. Et alors, moi, je suis d'un milieu aisé, mais je ne connaissais pas ces problèmes de jeunes. Et alors, finalement, ils ont emmené des copains, et puis les copains, ils ont emmené des copains, et ça a fait boule de neige. Et alors, il en faisait beaucoup. Moi, je ne faisais rien pour qu'il vienne. C'était dans la maison du vicaire, du prêtre. J'avais une table, des chaises, il n'y avait aucune infrastructure. Mais maintenant, on pense toujours faire des infrastructures, des grandes maisons. Et puis, on essaye de mettre des jeunes. Mais moi, j'étais rempli de jeunes et je n'avais plus d'infrastructure. Hein? Et alors, ils étaient nombreux. Alors, il y a une maison voisine. Et alors, on a pu arranger la maison, etc., avec les jeunes qui venaient, etc., après 4 heures. Puis, ils sont venus à midi. J'avais peur d'ouvrir à midi parce que j'avais peur qu'ils n'aillent pas à l'école. Puis, ils sont venus le matin, dès 7 heures du matin. Bon, alors, j'en recevais beaucoup. Et alors, je recevais aussi parfois des jeunes de home qu'on m'envoyait, des jeunes difficiles qu'on m'envoyait, qui venaient de home. Et alors, j'avais parfois des jeunes qui venaient la nuit. C'était pas pour dire des prières, c'était pas pour chanter comme vous. Ils avaient un revolver, parfois un couteau. J'ai passé des mauvais moments, hein, c'était pas facile. Mais j'ai toujours, pas me fâcher, toujours gentil, la prière de Saint-François d'Assise. Hein, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Là, il y a la méchanceté, que je mette un peu de la bonté, etc. Vous voyez, J'ai essayé, humblement, modestement. C'est pour ça que j'ai un cœur et une croix. Et alors, un peu comme Charles de Foucault, mais je vous expliquais. Et alors, bon, ben, figurez-vous que dans les années 70, 71, 72, j'en recevais parfois une centaine sur la journée. Une centaine de jeunes sur une journée. Alors, vous imaginez, c'était beaucoup. Et alors, on faisait le matin avant l'école, et puis alors, un petit peu le matin, et puis alors, à midi, après à midi beaucoup, et puis alors, on venait l'après-midi, puis on venait le soir. Il y en avait qui venaient pour venir suivre les cours du soir. Alors, vous imaginez, puis il y avait encore des jeunes qui logeaient, qui étaient de home, ou des jeunes qui avaient des problèmes. Alors, je ne vais pas raconter ici, vous imaginez que ça n'a pas toujours été facile, je vais raconter une fois, simplement un jeune, hein, que sa maman lui avait dit, sa maman ne le voulait plus. Et alors, sa maman lui avait dit, tu sais, en te regardant, je regrette de ne pas m'être fait avorter. Ça, son fils de 15 ans ou 16 ans, c'est terrible. Prends un revolver, tue-le. Et la mère avait dit au juge, vous savez, nous sommes des gens bien, tandis que celui-là, c'est un délinquant, c'est un mauvais, c'est lui qui devrait aller en prison. Et mettez-le en prison, qu'il ait du pain sec et à l'eau. Mais je dis, madame, c'est votre fils, ce n'est plus mon fils. C'est pas possible, des trucs comme ça. Vous imaginez, c'était dur. Enfin, je ne vais pas raconter, je pourrais vous raconter beaucoup, et presque toute la nuit raconter des histoires. Mais alors, je me suis demandé, un jour, c'est beaucoup de jeunes, je ne m'attendais pas du tout à faire ça, je voulais bien m'occuper de 20, 30 jeunes, mais pas plus. Mais ils venaient tous, je ne pouvais pas dire à l'un, viens, et toi pas à l'autre. Vous voyez, je me souviens, j'avais fermé la maison, et il y a un jeune qui me dit, quoi, tu fermes la maison, tu ne veux plus nous accueillir, on est obligé de rester dans la rue, il n'y a plus personne qui s'occupe de nous, et ce jeune... Il avait perdu sa maman et son père est alcoolique. Il va reprendre son père qui avait bu, enfin, par ce détail. Elle a pris son père, elle lavait son père, elle le mettait dans le lit, etc. Alors, est-ce que moi, j'avais le droit de dire, on fout le camp. Vous voyez, ce que tu fais au plus des miens, c'est à moi que tu le fais. Je sentais ça dans mon cœur. Alors, finalement, quand ils étaient si nombreux que ça, j'avais donc préparé l'homélie, donc le sermon après la messe. Et on appelle ça l'homélie maintenant. Eh bien, là, j'avais préparé quelques mots. Et alors, c'était l'homélie, c'était donc l'évangile plutôt, le dimanche-ci, c'est le premier dimanche de l'Avent. C'était le dimanche, l'évangile de l'Annonciation. L'ange vient annoncer à Marie qu'elle sera la mère de Jésus. Hein. Et Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? Bien, l'Esprit Saint viendra en toi. Bon, voilà. Alors, quand j'ai prêché, tout ce que j'avais écrit, je l'ai laissé de côté. Et j'ai dit, mais j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai dit aux gens, vous ne vous rendez pas compte, Dieu, la foi, ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous réalisons, ce que nous organisons, ce que nous structurons. La foi, c'est une aventure. C'est Dieu qui me prend et qui me lance dans l'aventure de son amour. J'ai été passionné, oui, parce que c'est autant de jeunes accueillis. Ça ne venait pas de ma tête, ça ne venait pas de mes raisonnements, c'était la vie, vous voyez ce que je veux dire. Alors, bon, donc voilà, j'ai continué comme cela. Et alors, il me fallait aussi trouver une base. Bien, le dimanche après-midi, je restais des heures à prier devant un Seigneur, et je lisais l'Évangile, et je lisais aussi Charles de Foucault, je lisais Thérèse de Lisieux. Alors, c'est là que je trouvais, si vous voulez, les raisons pour lesquelles j'accueillais tous ces jeunes. Alors, je ne suis plus resté à Fagny parce que je n'aurais plus su la paroisse, et puis alors les jeunes. Alors, je suis allé dans à Extal, donc un milieu très pauvre et ouvrier, si vous voulez. Et alors là, il y avait aussi beaucoup de jeunes qui sont venus. Et alors, j'ai eu beaucoup de jeunes musulmans qui sont venus. Beaucoup de jeunes musulmans qui sont venus. Et j'étais parfois le seul chrétien parmi tous les musulmans. Et alors, je ne cherche pas à savoir, je ne fais pas de critique, moi. Un homme, c'est un homme, c'est le fils de Dieu, c'est un enfant que Dieu aime. Et alors, figurez-vous que c'est des jeunes musulmans qui me disaient, toi, tu auras une belle place au ciel, parce que tout ce que tu fais pour les jeunes, eh bien, vraiment, Dieu te récompensera. Et puis alors, il me disait, mais toi, tu gagnes ton ciel en t'occupant tous les jeunes de faire tout ce que tu fais. Tu n'imagines pas, le matin, tu pries, et la journée, tu accueilles des tas de jeunes, et tu prends sur ton dos tous leurs problèmes. Mais tu n'es pas obligé de faire tout ça. Alors, c'est Dieu qui te récompensera. À la fin de ta vie, tu seras récompensé. C'est eux qui m'aidaient à assumer mon sacerdoce, ma vie sacerdotale, et ma vie de charité et d'amour, quoi. Alors, si vous voulez, je vais un peu vite et je prendrai déjà demain. Bon, j'ai continué maintenant, il y a un peu moins parce que l'accueil n'est plus tellement de mise aujourd'hui. C'est plutôt, ils ont des ordinateurs et puis alors des GSM, des smartphones, comment ça qu'on dit, smartphones, ils ne les connaissent pas beaucoup. Hein. Et alors, ils ont tout ça et ils éprouvent moins le besoin de se retrouver au foyer. Alors, ce que je fais, c'est que le vendredi après-midi, je vais dans un café rencontrer des jeunes de l'école, etc., et avec Adrienne et avec une autre jeune fille. Ils ont rencontré des jeunes et ont pris. quand il n'y en a pas, ils en prient, mais quand ils viennent, on les écoute, et je leur offre un verre. Alors le foyer, si vous voulez, je ne reçois pas de subsides de l'État. C'est un foyer qui marche la journée. Je n'ai pas voulu faire une institution. Pourquoi? Parce que voyez-vous, c'est des gens qui m'aident. Je n'ai aucun subside de l'État, ni de la commune, ni de la province. C'est des gens qui m'aident. Parce que je faisais confiance à la Providence, un peu comme le Don Bosco. Et alors, si vous voulez, je croyais vraiment que c'est le bon Dieu qui me demandait de continuer. Alors je me suis dit, mais il faut une base, il faut quelque chose qui tienne, quelque chose de solide pour tenir, quoi. Je ne pouvais pas trouver une paternité dans mon cœur, il fallait que je trouve une paternité quelque part, qui puisse me donner une solidité, qui puisse me donner si vous voulez, du courant, si vous voulez, pour tenir, quoi. Alors, j'ai fait une chapelle dans les années 70, donc j'ai commencé en 68, et en 70, j'ai commencé déjà la chapelle. J'avais fait une chapelle au-dessus, et c'est là que j'allais prier, et tous les jeudis soirs, je célébrais la messe, et là, je faisais l'adoration du Saint-Sacrement. Pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup Charles de Foucauld. Si vous connaissez Charles de Foucauld, qui est un Français, eh bien, Charles de Foucauld, lui aussi, eh bien, il était moine, j'ai été moine aussi pendant quelques mois, et j'aurais bien voulu continuer comme moine, mais le bon Dieu n'a pas voulu. Et je me suis demandé, maintenant, je comprends pourquoi le Seigneur ne m'a pas voulu. Parce que Charles de Foucauld aussi, eh bien, le bon Dieu l'a appelé, si vous voulez, à aller à Béniabès, puis à Manrasset, aller s'occuper de tas de gens, accueillir des tas de jeunes, des tas d'enfants, des tas de gens, et les aider, enfin, pas pour les convertir, bon, mais pour leur dire, voilà, pour témoigner de l'amour de Jésus. Oui. Et alors, je faisais l'adoration du Saint-Sacrement, et comme c'était des musulmans, je ne pouvais pas non plus leur dire, viens à la chapelle, viens prier, non. Et puis il y en a certains parmi les délinquants qui vont me dire, moi je vais venir à la chapelle pour me frotter la manche, pour avoir de l'argent, et peut-être pour me voler. Oh, j'ai déjà été volé quelques fois. Et alors, voyez-vous, c'est, si vous voulez, l'accueil, l'écoute, le service de tous ces jeunes, simplement pour témoigner de l'amour de Jésus, pour prolonger l'amour du Christ qui est dans le Saint-Sacrement, prolonger cet amour de Dieu à travers moi, en accueillant, en écoutant, en rendant service pour des tas de jeunes. J'en ai accueilli des milliers de jeunes pendant plus de 40 ans, 45 ans. Voyez. Donc ça veut dire que ce que je vous parle, ce n'est pas des idées dans un bureau, mais c'est à travers des visages, comme Miguel tantôt, comme ton frère Nicolas, oui, et comme tant d'autres. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Vous qui êtes des jeunes, là, eh bien, n'oubliez pas cela. Ce que tu fais au petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Et ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et alors, je vais un peu plus loin. Je regarde l'heure pour ne pas dépasser. Et alors, je vais un peu plus loin, si vous voulez. Pourquoi? Je me disais, oui, Seigneur, c'est bien, mais parfois, c'est dur. Où trouver le courage? Parce que on me disait, c'est bien ce que tu fais, mais tu devrais institutionnaliser. Ça veut dire dépendre de l'État, avoir des subsides, faire venir des éducateurs, assistants sociaux, etc. Et je n'ai pas dit, et c'est très bien, il y a des institutions qui travaillent très bien. Mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'institutions, mais il n'y a jamais eu autant de jeunes drogués, et violents, et délinquants, et suicidaires. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je me dis, mais c'est Dieu qui est important. On a besoin de Dieu aujourd'hui, de témoigner de Dieu, de témoigner de Jésus. Jésus, il est vivant. Vous l'avez entendu, vous l'avez parlé tantôt, enfin la chanté tantôt, la chapelle. Jésus est vivant. Je crois que c'est important de le montrer. Alors, si vous voulez, je me souviens bien, j'avais été un jeune, il n'est pas équilibré. Et il m'a volé. Et alors, en mettant la chambre en ordre, il avait fait ses besoins, les deux, dans la chambre, par terre. Alors j'ai dû ramasser, etc. Bon, et puis alors à la journée, je ne sais pas dire ça aux autres jeunes. Même quand je recevais des jeunes pour loger ou quoi, je ne disais pas aux autres, tu sais, je me levais la nuit pour un tel. Plus c'est caché, plus le bon Dieu le sait. Plus c'est caché, plus c'est fécond. Aujourd'hui, on fait des activités. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Quand tu fais un sacrifice, parfume-toi le visage. Et ton Père qui voit le secret te le rendra. C'est ce que j'ai essayé de vivre, tout simplement, humblement et modestement, mais je l'ai vécu. Et c'est une grâce que je remercie le bon Dieu. Alors voyez-vous, quand ce jeune a fait cela, il y a eu d'autres jeunes qui sont venus, et puis un policier qui est venu pour un jeune qui avait fait des bêtises. Et le policier me dit, enfin, il m'a fait laisser comprendre. Oui, il m'a fait les comprendre. Vous n'êtes pas capable de vous occuper des chrétiens dans leur paroisse. Vous êtes tout juste bon de vous occuper de gamins de mer. Alors je l'ai senti comme ça. Et le soir, c'était le jeudi, et il y avait l'adoration du Saint-Sacrement. Je ne disais pas aux gens ce que je vivais, ce que je faisais. Je ne disais pas. Et alors, donc j'ai fait la messe, j'ai appris la messe dans la chapelle, et puis j'étais à genoux devant le Saint-Sacrement. Je ne sentais rien, c'était l'aridité. La vraie spiritualité, c'est pas toujours tout ce qu'on sent, etc. C'est l'aridité. Rien sentir. Je veux parler de Thérèse de Lisieux demain. Je veux parler de Charles de Foucault. Tout seul faire l'adoration à Charles de Foucault. Et Thérèse de Lisieux n'était pas. Les autres sœurs ne savaient pas. Eh bien, toute seule. Eh bien, justement, c'était l'aridité. Je ne sentais rien. Puis à un moment donné, dans mon cœur, j'entends une voix qui me dit : tu vis le mystère de l'enfouissement. Je dis oui, personne ne le sait, c'est caché, on ne le sait pas, ben oui. Puis de nouveau silence. Alors j'entends une voix qui me dit une seconde fois, c'est une place de choix. Je dis, c'est pas une place de choix, si au moins on m'aidait, j'aurais des gens qui viendraient m'aider, qui feraient ceci et ça. C'est pas une place de choix, je comprends pas. De nouveau silence. Puis la parole me dit dans mon cœur, c'est ma place. Alors j'ai compris. Et vous ? Et c'est ça qui est important, c'est que j'ai compris et j'ai fait un livre là-dessus, si vous le voulez, j'en ai apporté quelques-uns. Et je voulais marquer l'Eucharistie au cœur des masses, mais celui qui a écrit le livre, enfin, c'est moi qui ai écrit le livre, mais l'imprimeur m'a dit, il ne faut pas mettre ça, l'Eucharistie au cœur des masses. Personne ne vous achète votre livre. Il faut mettre une vie au service des jeunes et mettez une photo où on voit des jeunes. Bon, je lui dis, ça va, d'accord, ok. J'ai écouté, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors finalement, j'ai écrit un petit peu les histoires de jeunes que je vous raconte, et encore je ne fais que de raconter un petit peu. Mais voyez-vous, ce qu'il y a, et puis alors des jeunes, je vois encore Claudie que je me souviens, eh bien, il avait demandé pour téléphoner chez moi, il avait 15 ans. Alors je l'ai laissé téléphoner, et il est venu une dizaine de fois chez moi. Alors je l'ai laissé, c'était l'heure de midi, il ne se mettait pas avec les autres, et puis il venait manger chez moi, etc. Et Claudie était dans un home. Il venait d'être dans un home. Alors, ça me faisait quelque chose, mais voilà. Bon. Et puis, un beau jour, je ne l'ai plus vu. Et puis, on me téléphone en me disant, vous savez, Claudie est à l'hôpital. Il demande à vous voir. Alors, j'y vais, et l'infirmière me dit, ah, heureusement que vous venez, il n'y a personne qui vient. Mais si, dit l'autre infirmière, sa maman est venue, mais elle n'est pas venue pour ce que vous croyez. Elle est venue nous dire, écoutez, c'est les vacances et moi je dois partir pour me reposer, je vais à la mer et je ne saurais pas m'occuper de mon fils s'il meurt. Parce qu'il avait fait un accident de voiture, il avait volé une voiture, après une voiture il s'est projeté contre un mur pour se suicider. Et alors il n'avait plus longtemps à vivre. Alors la mère avait dit, vous savez, moi je n'ai pas le temps de m'occuper de mon fils, je dois partir pour me reposer. Si vous voulez bien vous demander à l'assistance publique pour s'occuper de l'enterrement. Alors j'ai été le voir, il était à travers une vitre, il y avait plein de fils. Puis je le vois, et puis finalement il ouvre les yeux et il me voit. Alors il me voit et je dis, je prie pour toi. Je ne savais pas parler ça, à travers une vitre. Et puis à un moment donné, je vois une larme, son joue. Je me retiens pour ne pas pleurer, je lui dis, écoute, ça va, je prie pour toi, courage, je prie pour toi. Et puis bon, voilà, j'ai appris qu'il était un jour ou deux après, il est décédé. Alors ça m'a fait quelque chose, parce que je suis revenu dans la rue, c'était le moment des vacances, et tout le monde s'affairait pour les vacances, et on entendait du bruit, la musique, et acheter ceci, etc. Bon, fort, fort, fort. Et Claudie, le visage de Claudie, j'avais dans mon cœur, un peu comme Miguel tantôt, j'ai vu la guerre des Guillemets. Alors, ça m'a fait mal. J'aurais voulu crier, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, mais Claudie, il est mort, il a 15 ans, c'est pas possible. Parce que laisser comme ça... Vous voyez, aujourd'hui, quand c'est plus même des personnes âgées, tu ne m'intéresses plus, on laisse tomber. Enfin, je pourrais encore vous raconter ta histoire. Et alors, ce jour-là, c'était le vendredi saint, et je suis appelé à l'office, et à l'office, c'était marqué avec Ali Rizaï. J'étais le plus pauvre, le plus effacé, celui auquel on ne porte jamais un regard de tendresse, un regard de sympathie, un regard d'amitié. Je fus celui sur lequel on... qui était tout à fait oublié, je suis le dernier. Je suis un lépreux sur lequel on ne porte jamais un regard de sympathie. Je dis, mais cette parole-là que j'entends à la messe, elle n'avait pas besoin de tas de trucs et de chants. Mais je l'ai rencontré, c'était Claudie, je l'ai rencontré. Oui. Eh bien c'est cela, c'est tout ça qui m'a beaucoup aidé, qui m'a, je dirais, qui m'a donné la force, le courage de continuer à croire en Jésus, plus que jamais, oui. Et alors, après... J'ai lu Thérèse de Lisieux et Charles de Foucauld. Et j'ai étudié la vie de Jésus. Et plusieurs fois, je lisais la vie de Jésus. Et il ne faut pas oublier que dans la vie de Jésus, c'est ça qu'on a oublié, si vous voulez. S'il y a une crise dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on a oublié le Christ. On ne sait plus qui est Jésus. C'est ça qui est formidable. Ce n'est pas moi qui aime Jésus. C'est lui qui m'aime. C'est ça qui est important. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça part toujours de soi-même. Vous voyez? Alors, je vais m'arrêter un moment, mais par exemple, dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, la science, elle a fait des découvertes prodigieuses. C'est très bien, mais c'est le raisonnement. Et puis alors, la technologie, c'est formidable ce qu'on a aujourd'hui, la technologie, vidéo, génifie, etc. Bon, mais ça, le pragmatisme, je m'y connais, on sait très bien réparer la voiture, mais on ne s'entend pas avec sa femme. Et puis alors, le consumérisme. Le consumérisme, la consommation, c'est je choisis, je me sers, et puis après, basta, laisse tomber. Et sans s'en rendre compte, ça influence notre mentalité. Dans les relations avec les autres, dans les vies, la vie conjugale, le jour où tout n'intéresse plus, basta. Oui. Et alors, aussi, et enfin, les médias. Les médias, ça veut dire, c'est le rouleau compresseur, il faut penser comme on vous fait penser. Alors, inévitablement, tout est centré sur le moi-je, alors on n'accepte pas une référence à Dieu. Il n'y a plus d'idéal. Moi, je deviens un objet, et l'autre devient un objet dont j'ai besoin. Enfin, je ne dis pas plus tard qu'il y a 15 jours, une jeune dame, 30 ans, me dit... Elle me parle toute seule, enfin, à moi seule, elle me dit, voilà, mon père, eh bien, j'attends famille. J'ai déjà un enfant de 2 ans, mais j'attends famille. Et le généticien m'a dit, il y a beaucoup de chances pour que l'enfant soit handicapé. Alors, mon mari m'a dit, écoute, c'est toi qui décides. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, je lui ai donné une adresse de gens qui s'occupent d'enfants handicapés, physiquement tout. Et je lui ai donné l'adresse d'un prêtre. Alors je l'ai revue, elle m'a dit « j'ai pas osé de téléphoner ». Alors je lui ai dit « pourquoi ?» On a pris la décision de faire l'avortement. Oustine, j'étais vraiment... Je n'ai rien dit, mais j'étais ému, quoi. Alors voyez-vous, quand je lis la vie de Jésus, et c'est ça qui est important, c'est que Jésus, il y a 3 temps dans la vie de Jésus. Il y a, premier temps, c'est la vie à Nazareth. Pendant 30 ans, Jésus a une vie, ce qu'on appelle la vie cachée. Jésus a vécu 30 ans, hein, on aurait pu se lancer à faire des activités, des organisations, d'aller partir pour parler, pour faire... il y avait tant de misère à l'époque, tant de misère au point de vue politique, au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue maladie, etc. Tant de misère. Et Jésus n'a rien fait. Pendant 30 ans, Jésus n'a rien fait. Il a simplement été présent par une amitié, par l'écoute, par le service, simplement une présence. Et je le dis, j'expliquerai ça demain. Et puis, il y a deuxième partie de la vie de Jésus, c'est les 3 ans de présence, 3 ans d'enseignement, où il a parlé. Mais ce que Jésus enseignait, il l'a vécu pendant 30 ans. Et puis alors, il y a le sacrement, c'est la passion et la mort de Jésus. Parce que le sacrement, je vous expliquerai un peu l'Eucharistie, le sacrement, c'est toute la vie de Jésus, tout ce que Jésus a vécu, vous voyez. Et c'est ça qui est important, que nous vivions souvent. Et alors, les 30 ans à Nazareth. Eh bien, justement, dans un monde où on voit toujours l'homme qu'en fonction de l'activité, des raisons, des organisations, de la performance, des résultats, on se juge toujours en fonction de résultats. À partir du moment où je n'ai plus d'activité, je croule. Oui. Et quand il y a l'échec, je croule, parce que je me compare aux autres. La société, c'est l'agir qui détermine l'être. Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est l'être qui devrait déterminer l'agir. Mais on ne sait plus ce que c'est que je suis. On a perdu l'être aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu Dieu. C'est Dieu qui était la source de mon être. Ce n'est pas moi. C'est moi tout seul, mais je suis limité. Oui, par mon orgueil, mon égoïsme. Enfin, il y a 2 ans, je vous raconter des trucs, il y a plein de... Eh bien, un monsieur que je connaissais bien, qui était inspecteur de police, marié, 2 enfants, 15 ans et 11 ans. Et alors, ça n'allait plus avec sa femme. Et alors, il est allé chercher son âme de service. Il avait bu un peu, c'est vrai. Et dans un accès de colère et d'énervement, etc., il a tué sa femme. Il a pris une voiture, on l'a arrêté, il est en prison. Mais alors, on a fait un grand enterrement. Pour les 2 enfants, c'est terrible, et pour lui. Voyez-vous, l'homme a perdu son identité, il ne sait plus qui il est. Je ne veux pas l'accuser, ce qu'il a fait, c'est mal. Mais pourquoi est-ce que tant de jeunes tombent la délinquance, la drogue, Miguel et son copain là? Justement parce que l'homme, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de Dieu. Oui. Alors à partir de ce moment-là, on laisse tout tomber. J'ai encore eu avec un Marocain qui était là ce matin et hier soir, nous avons discuté pendant une heure à propos de Jésus, c'était très beau avec un musulman. Eh bien, il le dit aussi, il n'y a plus de Dieu. Et parce qu'il n'y a plus de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. Regardez la manifestation qui a lieu en France, même chez nous, pour l'homosexualité, vous voyez. Il n'y a plus de mariage, on fait ce qu'on veut. Et puis la philosophie du gender aussi. Oui, c'est profond tout ce qu'on vit aujourd'hui. Je crois que ce qu'il faut, c'est de redécouvrir que c'est Dieu qui est la source de mon aide. C'est Jésus qui m'aime. C'est pas moi avec des activités, des organisations. Il en faut, hein, j'ai pas dit ça. Mais ce qui nous manque, ce sont des saints. C'est des gens qui sont habités par l'Esprit Saint. Des gens qui sont habités par le Christ. C'est le Christ qui doit revivre en moi sa propre vie. Et c'est ça l'essentiel. Et quand je me suis occupé du foyer et que j'avais tant de jeunes qui venaient, eh bien, vous savez, c'est une confidence peut-être, moi qui suis d'un milieu aisé, l'argent que j'aurais pu garder pour passer mes vacances, pour aller à gauche, à droite, je ne fermais pas le foyer. Et l'argent que j'aurais pu garder, je faisais pour peindre le foyer. Mais dans salopé, j'ai travaillé. Et je me dis, on me disait, vous pourriez prendre des vacances, aller à gauche, à droite. Non, on m'avait offert d'aller à Lourdes, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je me dis, plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, et plus tu construis mon église. Ça, c'est bon. Plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, et plus tu fais du bien aux autres. Oui? Et je croyais cela très fort, dans l'esprit de Charles Foucault, dans l'esprit de Jésus. Oui? Plus c'est caché. Et c'est ça qu'on oublie. On voit toujours l'efficacité, le rendement. J'ai une partie qu'il n'en fallait pas. Mais ce qu'il faut, voyez-vous, c'est ça qui est important, c'est que chaque instant a un poids d'éternité, une éternité de joie pour le ciel. Et vous, chaque instant, ça veut dire chaque instant fait par amour, eh bien justement ça a un poids d'éternité. Eh bien, je peux sauver des âmes. Je peux mettre le feu au monde uniquement par une action cachée. J'ai vu Miguel, j'ai vu son frère, je lui ai offert à manger. Eh bien, c'est caché, je vous le dis bien sûr, mais combien d'actions cachées? Mais ce qui est caché, eh bien ça, tout ce qui, rien n'est perdu de ce qui est fait par amour de Jésus. Je veux laisser échapper aucun petit sacrifice, aucune parole, aucune action. Profiter de toutes les petites choses et de les faire par amour. Ainsi, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour de la petite Thérèse. Et Charles de Foucault aussi dira, cherche, demande, aime les occupations qui t'abaissent le plus. Plus tu seras petit de cette manière, plus tu me ressembleras. Voyez-vous, ce qui est important et ce qu'il nous faut dans notre monde d'aujourd'hui, ce sont des saints, des gens qui sont illuminés, transfigurés, pénétrés de l'amour du Christ. Pourquoi? Parce que c'est le Christ qui veut revivre sa propre vie à travers moi. C'est le Christ qui veut vraiment habiter en moi, par l'Eucharistie, dans l'Eucharistie et avec l'Eucharistie, voyez-vous. C'est ça qui est important. Ah, il nous faut vraiment des jeunes qui soient des saints. Je prends cet exemple, Dominique Savio. Eh bien, Dominique Savio, eh bien, dans sa classe, il y avait un élève qui avait fait Chambard. Et le professeur demande, je voudrais bien savoir quel est celui qui a osé faire Chambard, osé faire cette action-là. Dominique lève le doigt et il dit, c'est moi. Le professeur croit que c'est lui et alors il le punit. Et puis 3 jours après, l'auteur vient trouver le professeur et lui dit, non monsieur, ce n'est pas Dominique, c'est moi qui ai fait. Mais alors, le professeur a trouvé Dominique, pourquoi est-ce que tu as dit que c'était toi? Alors que ce n'est pas toi, mais pourquoi est-ce que tu as pris la place de l'autre? Et Dominique a répondu, je fais comme Jésus. Lui aussi, il a pris nos péchés sur la croix. Nos péchés, tous les péchés des hommes. Et bien moi, je vais prendre le péché de l'autre sur moi-même et j'ai voulu faire comme Jésus. Je crois que c'est important de redécouvrir que c'est la sainteté qui sauve le monde. Voyez-vous, toute âme qui s'élève élève le monde. Je regarde l'heure, il n'y a plus que 2 minutes. Je dois respecter les... Ça va, bon, ça va, d'accord. Mais je crois que c'est important, voyez-vous, de redécouvrir cela, tout le mystère de Jésus à Nazareth. Et j'expliquerai ça demain, si vous voulez bien. Mais je crois que c'est vraiment important de redécouvrir. Certes, il faut des institutions, des organisations, des structures. C'est très bien. Mais ce qu'il nous faut, ce sont des saints. Une fois, j'avais raconté tous ces problèmes de jeunes à des jeunes étudiants universitaires, où il y a bien une vingtaine d'années. Alors, il y a une universitaire qui me dit, heureusement qu'il y a des jeunes abîmés. Je dis, ah, pourquoi? Ça donne de l'emploi. Alors je me suis dit, mademoiselle, si votre frère était handicapé physique et mental, et vous m'en raconteriez tous ses problèmes, je vous aurais dit, mademoiselle, heureusement que votre frère est handicapé et mental, ça donne de l'emploi. Mais je me suis retenu, je n'ai rien à vous dédier. Voyez-vous ? Mais oui, mais c'est fort parce que s'il faut, l'homme n'est pas un objet dont on se sert pour faire, pour recevoir de l'argent. Je crois que c'est important. On ne peut pas aimer. Aimer, c'est d'abord prier et se priver pour l'autre, surtout si l'on ne sait pas. Dieu le sait, ça suffit. C'est ça qui est important. Vivre chaque jour comme si je devais mourir le soir. C'est vivre chaque jour en fonction de Jésus. Jésus est vivant et je dois faire tout en fonction de lui. Et justement, le fait même que d'accueillir des jeunes qui sont drogués, qui sont abîmés, qui sont violents, qui sont délinquants, ils vous amènent la police, on vous a volé, etc. Et le jeune revient. Bon, il est gêné, mais je dis ça va, je pardonne. Ça sert à quoi ? Une dame me disait, mais ce que vous faites là, mais les jeunes ne se rendent pas compte de ce que vous faites. Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps, ils ne comprennent pas ce que vous faites. Je dis peut-être qu'elle a raison. Mais justement, je me dis que si c'est comme cela, eh bien, c'est toujours essayer de vivre comme Jésus. Parce que, comme les moines dans le monastère, eh bien, bon, ben, ils travaillent, c'est tout en fonction de la gloire de Dieu, pour le Seigneur. Il nous faut des moines au cœur des masses. Il nous faut des religieux au cœur des masses. Il nous faut des saints au cœur des masses, qui vivent pour Jésus seul, pour Dieu seul, voyez-vous, dans, au cœur des masses, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les ennuis, dans la contrariété. Plus, voyez-vous, c'est ça qui est important, est-ce que nous oublions si souvent ? Eh bien, voyez-vous, toute âme qui s'élève, élève le monde. Eh bien, je crois que dans ce monde-ci, il est important que nous puissions redécouvrir que vous, les jeunes qui faites l'avenir, eh bien, continuez à faire votre travail, bien sûr, mais soyez surtout, ne calculez pas, ne regardez pas toujours les « Oh, c'est allé reporter, on a fait ceci, il y a eu ça, il y a autant de personnes qui sont venues à la messe, il y a beaucoup de communions, etc., il y a eu ceci, il y a eu ça. » C'est possible. Mais la petite Thérèse, qui marche péniblement dans le jardin parce qu'elle souffre de la tuberculose, et que l'infirmière lui dit, on ne savait pas à l'époque ce que c'était la tuberculose, il y a 100 ans, et l'infirmière lui dit, vous feriez bien, marcher un peu dans le jardin, ça vous fera du bien, prendre un peu l'air. Il y a une sœur qui la rencontre, et à chaque fois, chaque pas qu'elle fait, elle a mal. Et la sœur lui dit, mais sœur Thérèse, ce que vous faites, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. À chaque pas que vous faites, vous avez mal, vous feriez mieux de vous reposer dans ces conditions-là. Et sœur Thérèse aurait pu répondre, c'est la faute de l'infirmière. Ou bien, c'est vrai, c'est fini, je suis foutu, je suis à la fin. Eh bien, Thérèse a cette réponse, vous avez raison que ça ne sert à rien. Mais plus, là-bas, plus loin, un missionnaire n'en peut plus dans des courses apostoliques, eh bien, moi, j'offre la mienne pour lui. Pour que lui trouve encore le courage de parler de Jésus, voyez-vous. Et c'est cela que nous avons oublié. Ou bien l'homme est une passion inutile. Aujourd'hui, on aime, et puis on n'aime plus, puis on recommence, puis on se met avec une autre, puis on se met avec un autre, puis on n'a plus l'impression, il n'y a plus d'amour, fini, plus rien. Et je vous raconterai ça, l'histoire de Jean-Pierre, parce que maintenant, est un peu passé. Mais, ou bien l'homme est une passion inutile qu'on donne à l'absurde. Excusez-moi, il n'y a plus rien qui tient. Et l'amour, ça n'existe pas. La vérité, ça n'existe pas. Il se foutu, il n'y a plus que se droguer, se foutre en l'air, ça ne sert à rien. Ou bien, l'homme est une soif d'absolu appelée à l'infini. Bien qu'il y ait quelque chose de vrai dans l'homme, quelque chose de grand dans l'homme, quelque chose de formidable. Et c'est ça, la foi. C'est que le Christ s'est fait tellement l'un de nous que nous devenons éternels. Voyez-vous ? Et c'est cela qui est important. Je termine par... Je peux encore te prendre un petit exemple ? Oui, je peux. Voilà, alors je prends cet exemple. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Guélit, c'est un drogué. Et un jour, j'étais avec lui il y a une vingtaine d'années. J'avais été voir un malade et il m'a raccompagné. Il me raconte, tu sais, je connais une infirmière qui est partie dans un pays en voie de développement. C'est une fille qui avait fait beaucoup d'études, qui était assistante sociale, beaucoup d'études, enfin, bref. Et alors, elle est partie dans un pays étranger pour aider les gens. Elle avait fait beaucoup d'activités, d'organisations. Et un jour, en rentrant chez elle, elle est agressée. Alors, elle est obligée d'aller à l'hôpital. Et après quelques jours, revient chez elle, mais sa santé ne se remet pas. Alors, elle est obligée de revenir à Bruxelles. Et revenir à Bruxelles, on fait une prise de sang et on s'aperçoit que et la sida. La seringue dont on s'est servi dans ce pays-là n'était pas propre. Alors cette jeune fille, autant elle était intelligente, meneuse, directrice, organisatrice et vraiment pleine d'entrain, d'enthousiasme, autant elle était déçue, vraiment, si vous voulez, agressive, vraiment furieuse, en colère et anorexique. Elle n'en pouvait plus. Et elle, finalement, elle était, donc elle a sida. Et alors Jean-Pierre me dit, tu vois, la vie, ça n'a pas de sens. Et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, je n'ai pas ça ici, mais je vous le montrerai demain. Je me suis dit, si cette jeune fille, c'est plus elle qui décide, mais c'est son fiancé qui décide, eh bien, alors, elle ne fait plus ça parce qu'elle le veut, parce qu'elle en vit, parce que ceci ou parce que ça, à partir d'elle, mais c'est à partir de son fiancé. Vous changez le fiancé par Jésus. C'est lui qui l'envoie. Alors, tout est intériorisé. Tout est fait par amour, voyez-vous. Elle est moins capable, elle est moins valable que la première, c'est vrai, mais... où est la vérité de l'homme? Comprenez? Ce n'est pas l'agir qui renvoie la vérité de l'homme, mais c'est l'être qui renvoie l'agir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'activité, des organisations et d'être compétent, mais ce qui veut dire, c'est que la grandeur de l'homme se mesure à sa puissance de communion. C'est l'amour qui fait grandir l'homme, c'est l'amour qui fait la vérité de l'homme, c'est l'amour qui donne la puissance de la vérité de l'homme, vous voyez, c'est ça qui est important. Et c'est le Christ qui vient vraiment faire éclater les puissances de l'amour de notre cœur à la mesure de l'infini, à la mesure de son cœur. Je termine par cet exemple-là parce qu'il me semble vraiment important et percutant par rapport à la mentalité du monde d'aujourd'hui où il y a tant de jeunes de votre âge qui tombent dans la drogue, qui tombent dans le suicide, qui tombent dans la révolte, qui tombent dans l'alcoolisme, etc. Je vais encore prendre Franco, je prends encore citer son exemple, c'est vraiment... terrible, Franco. Eh bien, il vivra plus longtemps. Et son frère non plus, qui est venu avant-hier, plein de drogue et les yeux avec des ecchymoses, mais il a reçu des coups. Et alors, mais je me dis, où est la vérité? Oui. Et c'est ça qui est important. C'est, je crois, qu'il nous faut aujourd'hui, dans notre monde, il nous faut de nouvelles Thérèse de Lisieux, de nouveaux Charles de Foucault, de nouveaux frères Monsieur Marie, de nouveaux Père Leb, de nouveaux Abbé Pierre, quoi, n'est-ce pas? De nouvelles Mère Teresa, non pas pour faire comme eux, mais pour avoir dans notre cœur la même folie, la même puissance d'amour que eux l'avaient. Peut-être pour faire autre chose, peut-être, mais au moins la même puissance d'amour. Alors oui, le monde sera sauvé demain. Merci. Mm-hmm.